Alors, on va la lire à la tradi. Nous vous en prions, Maître, faites-vous notre secours et notre protecteur. Donc, citation du psaume 118. Parmi nous, sauvez les opprimés, aux humbles, faites miséricorde, ceux qui sont tombés, relevez-les, à ceux qui sont dans la misère, montrez votre face. Les faibles, daignez les guérir, les égarés de votre peuple, veuillez les ramener, donnez du pain aux affamés, délivrez-nous de nos liens, rendez-nous debout ceux qui languissent, consolez les pusillanimes, que toutes les nations connaissent que vous êtes seul, le seul Dieu, et que Jésus-Christ est votre Fils, et nous-mêmes, votre peuple, et le troupeau de votre bercail. Une citation de l'Ancien Testament. C'est vous dont les œuvres ont fait apparaître l'immortelle harmonie du cosmos. C'est vous, Seigneur, qui avez fait la terre habiter. Vous qui vous montrez fidèle dans toutes les générations, juste dans vos jugements, admirable dans votre force et votre majesté, sage dans votre création. Toute intelligence pour établir cette création dans la stabilité. Bonté manifestée dans le monde visible, fidélité envers ceux qui se confient en vous. Seigneur, miséricordieux et compatissant, remettez-nous nos péchés et nos iniquités. Pardonnez nos fautes et nos manquements. Ne faites pas le compte des fautes de vos serviteurs et de vos servantes, mais purifiez-nous en nous lavant dans votre vérité. Dirigez notre marche, afin que nous allions dans la sainteté du cœur et que nous accomplissions ce qui est bien et agréable à vos yeux. Et aux yeux de ceux qui nous gouvernent, oui, Maître, faites luire sur nous votre face, pour notre bien, dans la paix, pour nous être un appui par votre main puissante, pour nous libérer de tout péché par votre bras étendu, et nous délivrer de ceux qui nous poursuivent d'une injuste haine. Donnez-nous la concorde et la paix, à nous et à tous les habitants de la terre, comme vous les avez donnés à nos pères lorsqu'ils invoquaient votre nom dans la foi et la vérité. Et pour cela, rendez-nous soumis à votre nom tout-puissant et très saint, ainsi qu'à ceux qui nous gouvernent et nous dirigent sur la terre. C'est vous, Seigneur, qui leur avez donné le pouvoir d'exercer leur autorité par votre force magnifique et ineffable, afin que, sachant que c'est de vous qu'ils ont reçu leur gloire et l'honneur où nous les voyons, nous leur soyons soumis, bien loin de nous opposer à votre volonté. Donnez-leur donc, Seigneur, la santé, la paix, la concorde, la stabilité, afin qu'ils exercent sans obstacle la souveraineté que vous leur avez confiée. Car c'est vous, Maître, Roi des cieux pour les siècles, qui donnez aux fils des hommes la gloire et l'honneur et le pouvoir sur toutes les choses de la terre. Vous donc dirigez leurs conseils selon ce qui est bien et agréable à vos yeux, afin qu'en exerçant dans la paix, la mansuétude, avec piété, l'autorité que vous leur avez donnée, ils obtiennent votre grâce. Vous seul pouvez faire ces choses et nous en accorder de bien plus grandes encore. Nous vous en rendons grâce par le grand prêtre et chef de nos âmes, Jésus-Christ, par qui gloire et magnificence soient à vous, maintenant, de génération en génération et dans les siècles des siècles. Une belle prière, hein ? Mais on peut dire que c'est certainement l'une des premières prières chrétiennes, hein, qui nous soit parvenue, datée de 96. Hein, c'est...
Après le Notre Père. Après le Notre Père.
Après le Notre Père, oui. C'est... Ah, et puis il y a quelques prières dans les écrits de Saint Paul, etc. Et là, on a certainement l'une des premières prières non canoniques de la littérature chrétienne. Et qui, vous voyez, adressée au Père par le Christ. Alors, il y a peut-être une mention de l'Esprit, je ne sais plus où, avec un certain nombre de citations de psaumes. Donc voilà pour Saint Clément de Rome. Alors, nous passons maintenant à petit b, Saint Ignace d'Antioche. Alors, d'Ignace d'Antioche, qui est, on pourrait dire, de la même génération que Clément, puisqu'on n'est pas tout à fait sûr de la date de sa mort. Les uns disent 117, les autres disent 115, d'autres disent 110, enfin, ou 109. On n'est pas absolument certain, mais on sait qu'il était vieux. Que probablement il avait dû naître dans les années 40 ou 50, voyez. Bon. Alors nous possédons de lui sept lettres, au dire de, encore une fois, de Zeb de Césarée, dont l'authenticité a fait débat, notamment de la part des protestants, car on y voyait déjà bien implanté au début du IIe siècle la hiérarchie tripartite, évêque, prêtre et diacre, comme dans la lettre de Saint Clément. Et donc, même si, comme je le disais tout à l'heure, des communautés pagano-chrétiennes avec évêques et diacres ont pu coexister avec des communautés judéo-chrétiennes avec anciens, avec presbytres, dans la même cité. Alors, d'après Polycarpe de Smyrne, Eusèbe de Césarée et Origène, il a connu le martyr à Rome. Donc, vous voyez, on a quand même trois auteurs. Alors, c'est sûr que Eusèbe certainement cite Polycarpe. Il a connu le martyr à Rome, mais la date, comme je vous le dis, est conjecturale. 107, 110, 117. En tout cas, c'est sous Trajan. Alors, certains avancent jusqu'à 105, d'autres poussent jusqu'à 135. En tout cas, ces lettres sont des écrits de circonstances, des lettres qu'il a écrites sur le chemin qui le mène à Rome, où il va être condamné, où la sentence va être exécutée. Un peu comme Paul, vous savez, quand il est sur le bateau, là, enchaîné avec sept léopards, avec les soldats qui le gardent. Alors, de Smyrne, où il fait escale, Ignace écrit aux églises d'Éphèse, de Magnésie et de Trale pour les remercier de lui avoir envoyé des délégués. Il écrit aussi aux Romains pour les supplier de ne pas intervenir pour sa libération. Et à Troas, il apprend la fin des persécutions qui sévissaient à Antioche et dont il est justement victime. Et là, probablement aussi à cause de dissensions internes et de dénonciations. Puisque à l'époque de Trajan, le rescrit de quand Pline demande à Trajan comment il faut faire avec les chrétiens, il dit les chrétiens, faut pas les embêter, mais si on les dénonce, il faut les châtier. Mais si on les dénonce pas, il faut les laisser en paix. Mais si on les dénonce, il faut les châtier. Alors après Tertullien aura des trempera sa plume dans l'acide le plus corrosif pour dénoncer l'illogisme de cette décision, mais qui montre bien, d'une certaine manière, l'impuissance du pouvoir face à la plèbe. Parce que les persécutions, en fait, étaient attisées par la plèbe contre les chrétiens. Alors, vous savez, c'est toujours la même chose. Il y a des ragots qui circulent. Le voisin a un champ que je convoite, il est chrétien, toc, je le dénonce et je mets ma base sur le champ. Bon, alors face à des mouvements comme populaires de ce genre, finalement le pouvoir est un peu lâche et plutôt que de défendre quelques innocents, il préfère les livrer à la foule pour éviter des émeutes. Et donc on a cette espèce de décision de Trajan qui est une décision un peu bâtarde, hein, que justement Tertullien plus tard critiquera, mais qui fait que quand il y a une dénonciation, on ordonne d'abord on s'assure que la dénonciation est juste, parce que quand même Trajan menace ça c'est dans le droit romain, il menace le dénonciateur des châtiments qui sont prévus pour le condamné, hein, pour l'accusé. Donc ce qui quand même a tendance un petit peu à réduire la tentation de dénoncer trop facilement. Mais on verra qu'il y a des gouverneurs, par exemple, qui sont courageux, puis il y a des gouverneurs qui la serrent et qui ne veulent surtout pas d'ennuis dans leur ressort administratif ou judiciaire, et qui préfèrent sacrifier un innocent et avoir la paix, quoi. Et alors, quand il n'y a plus de dénonciation, il n'y a plus de poursuite. Voyez, donc là, Ignace a été dénoncé, il a été arrêté, on lui a dit de sacrifier aux dieux, il a refusé, donc il est condamné. Et puis la persécution s'arrête quand il n'y a plus de dénonciation. Les autres chrétiens, dont on sait très bien qu'ils ne sacrifieront pas aux dieux, on leur fiche la paix tant qu'ils ne sont pas dénoncés. Et c'est un système un peu étrange. Après, il y aura des systèmes de... Donc c'est le système du rescrit. Et après, il y aura des systèmes dédits de persécution. Et là, on demandera, enfin, on persécutera tous les chrétiens. Donc, ça sera un mode inquisitorial. C'est-à-dire, on ira chercher où sont les chrétiens, la police les poursuivra, etc. Après, on s'apercevra qu'il y en a trop. Du temps de Dèce, par exemple, et de Valérien, ils vont réorienter les poursuites vers les chefs, vers le clergé, parce qu'ils auront compris que finalement il y a une hiérarchie, et c'est en décapitant la hiérarchie le corps est vacille, et c'est là aussi que on se dira, ce sont des gens qui ont besoin de livres, et donc si on détruit les livres, eh ben ils n'ont plus de religion, et ça sera la grande affaire des traditores. Et le mot qui donnera traître. En fait, tradere, c'est donner, hein, c'est passer quelque chose à quelqu'un. Et c'est ceux qui livraient les livres liturgiques. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de photocopie, il n'y avait rien, pas d'imprimerie. Tous ces livres étaient écrits à la main, fastidieusement, etc., etc. Vous supprimiez un livre ou deux dans une communauté, et la communauté, il n'y avait plus rien. Donc, c'était un crime très grave dans l'Église d'avoir livré les livres. 1000 fois plus que d'avoir livré la vaisselle sacrée. Hein. Parce que sans livre, il n'y a plus d'Église. Alors, à Troas, Ignace apprend la fin des persécutions qui sévissaient à Antioche, et dont il était la victime. Alors il va écrire à deux autres églises, celle de Philadelphie et celle de Smyrne, ainsi qu'à l'évêque de Smyrne, Polycarpe. Ignace, d'après Eusèbe de Césarée, serait le deuxième successeur de Pierre à Antioche, hein, puisque Pierre part à Rome, où il y avait vraisemblablement déjà une communauté chrétienne, hein, avec certainement un chef, mais probablement sous la forme judéo-chrétienne, c'est-à-dire avec un collège d'anciens dont il prend la présidence, et puis un successeur à Antioche, alors je ne sais pas qui, Ignace serait le deuxième successeur de Pierre à Antioche. Et il se révèle dans ses lettres, on peut dire, théologien, évêque, pasteur et même mystique. Alors, je vous présente un peu sa pensée, puis après on va lire des textes. Alors, face aux doutes des convertis, tant du judaïsme que du paganisme, il va rappeler le réalisme de l'incarnation face à ce qu'on appelle le docétisme. Le docétisme, c'est cette doctrine de début du IIe siècle qui prétend que le Christ n'est qu'une apparence, que l'humanité du Christ n'est qu'une apparence, et que, par exemple, il n'a souffert qu'en apparence sur la croix. qu'il s'est incarné qu'en apparence. En fait, finalement, c'est les deux sets, c'est un peu des gens qui voient le neuf avec les yeux du passé. C'est pas des bons traditionnalistes. Hein. Nous, on n'est pas comme ça. Non, ils voient le neuf avec les yeux du passé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit dans l'Ancien Testament ? On voit Dieu qui apparaît sous une forme visible, sous la forme d'un ange, sous la forme d'un personnage, etc. Mais d'un personnage qui redisparaît aussitôt après, par exemple. Si je ne me trompe, Raphaël là qui accompagne Toby, hop, il saute dans l'offrande de l'Holocauste qu'on a fait, puis il s'en va vers le ciel. La lutte de Jacob là, hop, le personnage disparaît une fois qu'il a abîmé Jacob. Enfin, tous les personnages de l'ancien, toutes les apparitions, les théophanies divines, en fait, sont, disons, figurative, mais en même temps, on sent bien que ce sont que des apparences. Et alors, Jésus, bah, du coup, on va interpréter Jésus à partir de ce qu'on sait déjà, voyez, et on passe à côté de la nouveauté. Et la nouveauté, c'est que c'est vraiment Dieu incarné.
Mais est-ce que ça ne ressurgit pas aujourd'hui, le diocétisme ?
Ah ben si, alors le docétisme, alors en tout cas c'est la vision officielle du Coran, enfin de l'islam sur le christianisme, pour commencer, sur le Christ.
Non, c'est l'inverse. C'est plus des Ariens, les musulmans.
Oui, en fait, ils pensent que c'est un prophète, donc c'est un homme, mais en même temps que c'est un homme qui a mystérieusement disparu.
Oui, c'est vrai qu'il pense qu'il a mystérieusement
disparu. Donc il a une sorte d'humanité d'apparence. Et qu'il a été remplacé par un autre sur la croix. Alors certains, donc cette idée du docétisme, c'est que, en tout cas, l'humanité du Christ est évanescente. Et ce qui est derrière, on ne sait pas trop ce que c'est.
Ils reconnaissent qu'il est Dieu quand même.
Les docètes.
Oui.
Oui, c'est une sorte d'apparition, une sorte de théophanie. Une théophanie.
Une espèce d'avatar.
Oui, c'est ça. C'est pas. Et alors, du coup, et précisément, quand les choses vont mal, c'est là où il s'évanouit au moment où les choses vont mal. Enfin, il disparaît au moment où les choses vont mal, notamment au moment de la Passion. Alors. Saint Ignace va insister sur le réalisme de l'incarnation en disant il a été vraiment conçu d'une vierge, il est vraiment né, il a vraiment souffert, il est vraiment mort, il est vraiment ressuscité. Donc à chaque fois il dit, je crois que c'est aletiné en grec là, ou aletinos, il est vraiment cela. C'est pas une apparence de naissance, c'est pas une apparence de mort, c'est pas. Oui. Et il insiste continuellement aussi sur l'unité qui doit caractériser la communauté chrétienne. À l'image de l'évêque, il y a un collège, une Eucharistie, une vérité, une Église, comme il n'y a qu'un seul Dieu. Alors. C'est très net, hein. Un Dieu unique qui est représenté par un évêque qui est le principe d'unité de tout le reste. C'est-à-dire, il y a une seule Eucharistie. Ben, à l'époque, c'était des petites cités, etc. Donc, il n'y avait qu'une seule messe, hein, en gros. Une seule Eucharistie, un seul collège, soit de diacres, soit de presbytres, autour de l'évêque, une seule communauté. Une seule vérité enseignée, etc. Donc, on insiste sur l'unité. Et les évêques, les prêtres, les diacres doivent vivre cette unité à l'image de l'unité trinitaire. Et c'est lui le premier qui parlera, donc la première occurrence dans l'histoire d'Église catholique, c'est sous la plume d'Ignace dans la lettre aux Smyrniotes 8.2 où il parle de « e catholicae ecclesia », l'Église catholique. Comme pasteur, il insiste sur la charité à déployer en faveur des plus petits. Et il dit, la communauté se soumet à l'évêque et à ses collaborateurs, comme l'Église tout entière se soumet au Christ et le Christ à Dieu le Père. Donc il y a toujours le lien avec Dieu. Mais Ignace se montre aussi mystique et spirituel. Il centre sa réflexion sur la béatitude que l'homme connaît dans son union avec le Christ. Et il dit que le martyr achève ce mouvement d'union. Plus tard, ça sera dans le substitut du martyr qu'est le monachisme. Et alors on a ce beau passage dans Romains 4, 1. « Je suis le froment de Dieu, et je suis moulu par la dent des bêtes pour devenir le pain immaculé du Christ. » Vous voyez, l'hostie, c'est la victime. Donc, il est la matière même du sacrifice.
Est-ce que c'est tellement compris aujourd'hui comme ça?
Hostie, ça veut dire hostia, c'est victime, hein,
oui, je sais.
C'est ça. Et du coup, l'hostie qu'on offre, c'est un symbole de nous-mêmes hein, dans l'offerte. C'est pour ça que l'offertoire, c'est important. Alors, c'est pas vous de le dire, hein, mais l'offertoire, c'est important parce que, avec cette phrase de Saint Ignace qui va la vivre réellement, l'hostie qu'il offre, enfin son Eucharistie, c'est la matière de son offrande, c'est lui-même, hein, c'est sa chair offerte en hostie, en sacrifice.
Très